14h à Dakar, 16h à Paris, vous écoutez RFI. Pierre Boudias est là pour le journal. Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Mettre fin au bain de sang en Ukraine, c'est l'objectif affiché par Donald Trump qui doit appeler dans les prochaines minutes Vladimir Poutine avant de s'entretenir avec son homologue ukrainien. Kiev et Moscou entendent bien poser leurs priorités. Soulagement du camp européen après la victoire de Nicu Jordan à la présidentielle roumaine. Le maire de Bucarest élu au second tour face à George Simion hier. Les nationalistes affichent leur désillusion. Vous l'entendrez. Benjamin Netanyahou redit vouloir s'emparer de la bande de Gaza. Déclaration au lendemain du lancement d'une nouvelle opération terrestre dans l'enclave. Le premier ministre israélien reste pourtant sous pression américaine pour un arrêt des combats. Et puis Bruno Retailleau prend les rênes de la droite conservatrice en France. Le ministre de l'Intérieur s'est imposé face à Laurent Wauquiez hier à la présidence des Républicains. Les adhérents LR convaincus par sa posture de fermeté sur l'immigration et la sécurité. Le téléphone de Vladimir Poutine doit donc sonner dans les prochaines minutes. À l'autre bout du fil, son homologue américain avec qui il doit s'entretenir sur le dossier ukrainien. Donald Trump, qui dit vouloir mettre fin au bain de sang en Europe de l'Est, doit ensuite discuter avec Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN. Et après des discussions infructueuses en Turquie la semaine dernière, Kiev et Moscou espèrent bien mettre en avant leurs priorités. Anastasia Becchio.
Responsables russes et ukrainiens tentent chacun de leur côté de faire basculer le rapport de force à leur avantage auprès de Donald Trump. Le porte-parole du Kremlin parle d'une conversation importante. La Russie continue d'exiger la neutralité de l'Ukraine et la reconnaissance des annexions des quatre régions qu'elle n'a pas entièrement conquises, deux exigences rejetées par l'Ukraine. Elle cherche aussi à gagner du temps alors que ses troupes continuent de grignoter du terrain. Enfin, la Russie voit en Donald Trump le seul dirigeant occidental en mesure d'alléger les sanctions, même si le président américain a menacé de les augmenter si Moscou ne prenait pas au sérieux les pourparlers de paix. Ce matin, le porte-parole du gouvernement allemand a d'ailleurs affirmé que le chancelier Merz travaillait à l'instauration de nouvelles sanctions avec ses partenaires européens et américains. Hier soir, les dirigeants français, britanniques, allemands et italiens se sont entretenus par téléphone avec le président américain, selon Downing Street. Donald Trump, qui se pose en faiseur de paix, espère que ces initiatives aboutiront à un progrès vers un cessez-le-feu, un optimisme que ne partagent pas les observateurs, comme la chercheuse Tatiana Stanovaya, qui évoque sur ses réseaux sociaux des attentes exagérées et dit ne pas s'attendre à une percée.
Anastasia Becchio et le Kremlin dit lui à l'instant s'attendre à un travail laborieux et peut-être long en vue du règlement de ce conflit. Son porte-parole Dmitri Peskov avait plutôt assuré que la Russie souhaitait atteindre ses objectifs en Ukraine par des moyens politiques et diplomatiques. Moscou qui juge pour le moins étrange les résultats de la présidentielle en Roumanie hier. Réaction de la Russie au second tour de l'élection présidentielle dans le pays. Elle a donné la victoire au candidat pro-européen Nicu Jordan. Le maire de Varsovie récolte 54% des suffrages. Il a reçu les félicitations de la France et des dirigeants de plusieurs institutions de Bruxelles. La liesse de ses partisans dans la capitale ce dimanche contrastait avec la déception des soutiens de son adversaire malheureux, le nationaliste George Simion, qui a tout de même obtenu 46% des voix, un score inédit en Roumanie pour une telle formation. Pas de quoi pourtant redonner le sourire à ses soutiens. Reportage à Bucarest, Muriel Paradon.
Place de l'Union en plein centre de Bucarest, c'est la désillusion pour certains Roumains qui avaient voté pour le candidat d'extrême droite, George Simion. Cristina, 33 ans, travaille dans le commerce.
C'est désolant. Les gens auraient pu voter pour Simion. Il aurait pu amener le pays vers de meilleures choses, de meilleures conditions de vie, des aides pour les handicapés, par exemple.
Marius, 40 ans, n'a pas voté, mais il fustige violemment Nicu Jordan. Selon lui, le nouveau président n'arrivera pas à défendre les intérêts des Roumains.
Ça se voit à sa tête qu'il est incapable de faire face aux dirigeants du monde. Il sera soumis, la tête baissée. Et dans sa campagne, il ne s'est intéressé qu'à l'Ukraine et à la Moldavie, pas à la Roumanie.
Alekou, un étudiant de 19 ans, a voté George Simion parce qu'il partage, dit-il, ses valeurs morales. Ce qui l'inquiète aujourd'hui, c'est que les élections ont divisé la société.
La société s'est pas mal divisée. Il y aura peut-être une période de tension sociale. Et ensuite, ensemble, la politique reviendra comme avant, avec les mêmes déceptions. Je ne pense pas qu'il y aura un changement radical, peut-être un changement infime.
Dans son discours hier, le nouveau président Nicu Jordan a promis de reconstruire une Roumanie unie. Il aura fort à faire. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
Et l'extrême droite a également franchi un nouveau palier au Portugal. Hier, pour la première fois de l'histoire du pays, elle dépasse les 20% des voix lors de l'élection législative. La formation Chega se classe troisième de ce scrutin, juste derrière les socialistes. C'est la droite modérée du Premier ministre sortant, Luis Montenegro, qui est en tête avec seulement 33% des suffrages. Elle devra cependant chercher une coalition pour gouverner. RFI, il est 17h05 à Gaza, l'enclave palestinienne où 52 personnes ont été tuées depuis ce matin dans des bombardements israéliens. Selon les secours, l'armée israélienne y mène depuis hier une nouvelle offensive terrestre. Objectif, s'emparer de la totalité du territoire, fait une nouvelle fois savoir Benjamin Netanyahou ce lundi, le premier ministre israélien qui se dit contraint pour des raisons diplomatiques d'éviter une famine à Gaza en rouvrant partiellement l'accès à l'aide humanitaire. Et pour Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, le chef du gouvernement israélien est aujourd'hui clairement sous pression des États-Unis et des pays de la région du Golfe.
En fait, on voit bien que Netanyahou est dans une situation très compliquée, puisque d'un côté, il veut absolument continuer à bombarder Gaza, puisqu'il n'a aucun plan politique pour le jour d'après, comme on dit. Et on le voit bien, ça fait des semaines et des semaines qu'il est simplement dans une logique militaire, qui évidemment ne conduit à rien, mais il est dans cette logique. Et d'un autre côté, on a quand même un Donald Trump qui rentre, comme vous le savez, d'une tournée dans les pays du Golfe et qui voudrait quand même faire plaisir, si je puis dire, à ses dirigeants du Golfe avec lesquels il a fait des affaires très juteuses d'un point de vue économique, et ses responsables du Golfe qui mesurent à quel point l'opinion publique dans la région est absolument choquée par ces images de ces bombardements sans fin de la bande de Gaza qui est complètement dévastée, et donc qui lui demande maintenant de contraindre Netanyahou à arrêter ce massacre, puisqu'on ne voit même pas la finalité politique de ce massacre, si ce n'est de vider la bande de Gaza de ses habitants et de la réduire à néant.
La chercheuse Agnès Levallois et les affaires humanitaires des Nations Unies disent être en pourparlers avec Israël sur les modalités du retour de cette aide humanitaire annoncée par Benjamin Netanyahou. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé s'indigne, lui, que 2 millions de personnes soient aujourd'hui affamées dans l'enclave palestinienne. Tedros Adhanom Ghebreyesus dénonce le blocage par Israël de tonnes de denrées aux frontières. Royaume-Uni et Union européenne ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire. Londres et les 27 ont conclu ce lundi plusieurs accords qui doivent revitaliser leurs relations 5 ans après le Brexit. Parmi les principaux points à retenir, un accord sur la pêche, des facilitations d'exportation pour les produits britanniques en Europe, ou encore un pacte de défense et de sécurité qui permettra aux entreprises du Royaume-Uni de participer au réarmement de l'Europe. Un texte qualifié de gagnant-gagnant par le Premier ministre Keir Starmer. En France, la droite connaît désormais son nouveau patron et il est aussi ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau a été largement élu président des Républicains, c'était hier. Et Raphaël Delvolvé, il l'emporte avec plus de 74% face à Laurent Wauquiez et ça lui donne forcément une forte légitimité.
En réalité, le plus difficile commence, car à 2 ans de l'échéance, ses rivaux internes n'ont pas disparu, à commencer par Laurent Wauquiez, qui même très largement battu, reste au poste influent de chef des députés et campe depuis hier sur sa position exprimée pendant la campagne, en mettant en garde Bruno Retailleau contre une dilution des LR dans le macronisme. Si le nouveau chef du parti dit vouloir présenter un candidat en 2027 choisi par les adhérents, un ralliement à Édouard Philippe est toujours possible, notamment si l'extrême droite restait très haute dans les sondages. Toutefois, cette élection n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le RN, car Bruno Retailleau plaît aux électeurs de Marine Le Pen. Pas un hasard si le parti à la flamme redouble ses attaques contre le nouveau patron de la droite depuis hier en n'hésitant pas à le qualifier de macroniste. Bruno Retailleau aura d'ailleurs la tâche de s'en démarquer, lui qui reste membre d'un gouvernement pas tout à fait à droite, mais auquel il doit également sa notoriété à travers l'expression d'une ligne très ferme sur l'immigration, la sécurité ou des rapports avec l'Algérie. Ça suffit au moins à faire naître un espoir dans une famille qui enchaîne les déconvenues électorales depuis 2017.
Raphaël Delvolvé. Et puis avis aux amateurs de football, le Ballon d'Or France Football 2025 sera décerné le 22 septembre prochain, annonce des organisateurs, alors que 13 trophées seront distribués chez les hommes et chez les femmes. Les trophées de la meilleure joueuse, de la meilleure jeune joueuse, de la meilleure gardienne et de la meilleure buteuse en club et en sélection s'ajoutent ainsi au palmarès. Les nommés devraient être connus début août. L'année dernière, la victoire de l'Espagnol Rodri face au Brésilien Vinicius avait provoqué une forte polémique. Presque 16h10 ici à Paris. Bonne suite des programmes sur RFI.